jour avec le père Willem.
Et nous passons dans une autre région très lointaine, le Japon. Nous parlons de cette impermanence de la beauté au Japon. Le respect devant les forces de la nature, souvent violentes au pays du soleil levant, a créé un rapport unique au paysage et à ce que l'on peut appeler l'esprit du lieu. La contemplation des cerisiers en fleurs est le grand thème du printemps, affaire qui monopolise la vie des Japonais de fin mars au mois de mai. Pour les Japonais, il ne s'agit pas d'une contemplation passive d'un phénomène saisonnier, mais d'un sentiment beaucoup plus profond et d'un acte social aux dimensions culturelles importantes. C'est en effet l'occasion de partager ensemble la sensibilité à l'impermanence de la vie et le sens de l'éphémère, source de rédaction de haïku et de dégustation du saké, pour ne pas dire de beuverie, assis sur des bâches et poudrées de pétales de cerisier. Historiquement, la rencontre Shinto, religion indigène, est fort ancienne, et du bouddhisme venu de Chine et de Corée, aux alentours du 5e siècle, a produit un syncrétisme propice à l'attention portée à la nature. Le Shinto développe le caractère sacré de la nature par des divinités innombrables réincarnées en tout être ou toute chose. De ce savant mélange entre le Shinto et le bouddhisme va naître un certain nombre de dispositifs pour tenter d'éclairer les ambiguïtés dues à la notion de nature. On a souvent coutume d'opposer nature et culture en Occident, mais cet antagonisme ne résiste pas à la sensibilité nippone. Peut-être la société s'est-elle développée dans une variété climatique très contrastée, alors que les vents sibériens et les courants froids affectent le Japon de l'envers, façade continentale bordée par la mer du Japon, les vents chauds du Japon de l'endroit sur la côte pacifique établissent un temps sec et serein durant l'hiver. Après le printemps, les cerisiers qui remontent du sud au nord, l'été moite s'installe et ces masses d'air chaud provoquent la mousson. L'archipel entier vit au rythme des saisons. La pluie d'automne ne se confond pas avec celle du printemps et le calendrier des précipitations évoque des sentiments, des émotions différentes qui ont recours à un champ sémantique spécifique. La brume qui rit évoque l'automne, la mélancolie le départ, alors que le brouillard léger Kazumi s'associe au printemps et à la joie de vivre. L'émotion provoquée par ces mots imprègne les souvenirs littéraires et les représentations des estampes si chères à la fragilité de la vie. D'abord, les premiers venus de Chine connurent une grande vague et une vogue et furent peu à peu supplantés par les cerisiers sauvages, emblèmes du printemps. À partir de 850, on plante de plus en plus de cerisiers à Kyoto et l'on élabore un nouveau paysage pour instituer des modèles de sensibilité, des métaphores du sentiment d'impermanence lié au caractère éphémère de la fleur de cerisier. La brusque apparition d'un mode de vie urbain. Alors que le Japon ne connaissait pas la ville, va créer donc ce voyage entre la nature et la culture, la réciprocité entre les images de l'éphémère et leur représentation artistique et esthétique dans la calligraphie et la littérature. Et c'est donc à partir de la cour de Heian que la thématique végétale se développe et s'impose. Dans le recueil de poèmes compilé au 8e siècle, les Japonais se montrent familiers avec la nature. On comprend aisément que cette disposition se trouve à l'opposé de la tradition chrétienne, avec son obsession créée autour du péché originel et de la nature païenne qu'il faut à tout prix évangéliser. L'histoire du Japon en conservant cette mémoire, oui. Mais en japonais, il n'existe pas de mot précis pour nature. On emploie des faux « shizen », prononciation japonaise du mot chinois « ziran », introduit au Japon avec le bouddhisme et le taoïsme au 6e et 8e siècle. Dans les notes sur la technique du Desjardins, un recueil de préceptes attribués à Tashihana no Toshitazuma, qui ont vécu entre 1024 et 1094, aristocrate de la cour de Heian, cet ouvrage restera secret pendant des siècles et devenu plus tard un écrit classique. Il énonce un certain nombre de principes essentiels de l'art des jardins et du style architectural Shinden. Pour l'auteur, respecter la nature, c'est la suivre, et pour ce faire, il faut à tout prix éviter d'aller à l'encontre de ce qui est inné dans la nature. Il donne l'exemple de plusieurs interdictions qui consistent à arranger, à dresser, disons, les pierres à l'endroit dans une position naturelle qui va de soi. La nature les oblige, pour faire un jardin, à se conformer au relief préexistant. La forme de l'île, la forme des montagnes et le style d'arrangement de pierres. On peut donc cheminer de la contrainte la plus fondamentale, c'est-à-dire la plus naturelle, à la plus contingente, donc culturelle. Il faut suivre ce que la pierre demande, ces préceptes encore très inspirés de la culture des jardins chinois sont suivis pour la construction des jardins de paradis bouddhiques. Oui, c'est cela. C'est un paradis qui est possible. Le paradis dans un printemps qui révèle par les cerisiers que la vie est toujours au rendez-vous de ceux qui savent guetter la vie.
Thank you. Thank you.